Bonsoir, la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour l'inauguration du cycle de rencontres matière à penser qui a été imaginé avec Flore Garcin-Maroux et Aurélie Mouton-Rézou qui seront donc les animatrices de cette soirée pour le grand entretien de Christian Jacob, anthropologue, historien, spécialiste des mondes antiques qui inaugure ce cycle en nous présentant cette matière à penser. Comment pense-t-on en carte? Comment pense-t-on en histoire? Comment pense-t-on, la suite du cycle le dira, en littérature, en théâtre, peut-être en mathématiques? Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à nos animatrices.
Merci. Merci pour cette présentation. Merci à la BPI, à la Bibliothèque publique d'information. Christine et Emmanuel, merci beaucoup de nous recevoir. Donc quelques mots d'introduction déjà pour présenter ce cycle. Ce cycle que nous avons intitulé « Matière à penser ». Donc c'est un cycle de rencontres qui interroge les cheminements de la pensée en prise avec la matière, le matériau, la texture ou le geste. Cette matière qui serait propre à chaque terrain de création. Ce cycle est une nouvelle étape d'un programme plus largement intitulé « Ces lieux où l'on pense » que nous avons conjointement mené, Aurélie Mouton-Rézouk et moi, en collaboration également avec François Mérès, qui est professeur à l'Université Paris 3. Et un colloque international a eu lieu sur ces lieux où l'on pense en juin dernier à l'Université Paris 3 et au Musée de l'Homme à Paris, où nous avons déjà eu l'honneur de rencontrer et d'écouter Christian Jacob. D'autres rencontres ont eu lieu à Toulouse, où j'enseigne, où nous nous sommes posé cette question : comment ça pense par chez toi ? Et on posait cette question à des marionnettistes, à des metteurs en scène, à des acteurs, à des théoriciens du théâtre. En 1966, Michel Foucault fait le constat que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée, dont il est difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques. Son hypothèse revient à dire que nous avons basculé dans un monde où des actes relèvent d'activités de pensée, qui tiennent lieu de philosophie, sans prendre la place de la philosophie, mais en se positionnant comme le déploiement par l'acte, par le geste, de la discipline philosophique. Nous faisons donc, dans ce cycle, matière à penser, l'hypothèse que le geste artistique pense, et qu'il pense autrement, avec des moyens qui lui appartiennent, et que l'on peut penser en et par la littérature, par l'écriture et par la lecture, penser en et par le cinéma, le mouvement, l'image, la scène, la toile ou le burin. Déjà, Gilles Deleuze, dans l'image-mouvement et l'image-temps, en 1983 et en 1985, démontrait qu'il existait bien une pensée cinéma et qu'il était nécessaire d'inventer un nouveau lexique de concepts philosophiques pour dire la spécificité de la pensée qui se déploie dans le 7e art.
Alors plus largement, nous faisons l'hypothèse que chaque acte créateur reflète, permet un régime de pensée singulier, dont la forme, le vocabulaire, la teneur, la matière diffèrent d'un domaine ou d'un terrain à un autre, et que donc il n'est pas simplement propre à incarner un moment ou à traduire après coup ou à manifester de la pensée qui serait déjà là, déjà pensée, mais qu'on peut l'analyser et le mettre en œuvre comme une machine à faire émerger des modes de pensée, des propositions, des savoirs qui lui sont propres. Donc cette matière à penser, c'est donc aussi bien dans l'acception que nous voulons lui donner, l'œuvre, le matériau, le lieu, le moment, la pratique ou le geste, et cela tant du côté on va dire, créateur que de celui du récepteur, le spectateur, le lecteur, le regardeur. Bon, mais si cette matière pense ou produit de la pensée, qui pense et comment ? Quels aperçus de notre monde, quelles opérations de pensée originales est-ce qu'elles nous permettent d'offrir à l'investigation ?
Et donc nous nous proposons, au cours de ce cycle, d'explorer les voies et les paysages de cette matière à penser, matière de théâtre, de littérature, de photographie, d'architecture, de cartes ou d'exposition.
Pour cette entrée en matière donc, nous sommes très heureuses d'accueillir aujourd'hui Christian Jacob, historien, anthropologue, donc spécialiste d'histoire ancienne, Christine l'a dit tout à l'heure, de cartographie également, qui s'intéresse aussi aux bibliothèques, et nous sommes très heureux de pouvoir ouvrir ce cycle aussi par la question de la matière bibliothèque. Christian Jacob, qui a notamment dirigé, mais dirige toujours, un programme de recherche sur les lieux de savoir, qui a été aussi l'occasion de ces premières rencontres que nous avons eues.
Donc, l'entretien va durer entre 45 minutes et une heure, et puis nous aurons le temps de prendre quelques questions de la salle. Donc, voilà, vous pouvez y penser, enfin, voilà, noter les questions que vous aurez à poser. Et quelques mots, voilà, avant d'ouvrir, quelques mots, une entrée en matière, on va dire, pour le cycle matière à penser. Je voulais dire, voilà, proposer quelques pistes déjà de réflexion sur la définition de la matière, puisque ça va nous interroger beaucoup. Petite cartographie de définition. La matière, d'abord, a une valeur concrète, de substance dont est faite une chose. Et dès le XIIIe siècle, la matière désigne particulièrement les substances sécrétées, évacuées par le corps. Au XVIIe siècle, la matière se rapporte à la substance que l'artisanat ou l'industrie met en œuvre. Et le syntagme « matière première » apparaît en 1771. À partir de là, la matière désigne des éléments matériels de la création picturale, la pâte, la glaise, par exemple. Mais outre ces valeurs concrètes liées à la matière, dès le XIIe siècle, emprunte aussi au latin des sens abstraits, recouvrant l'idée d'objet de pensée, de point de départ d'une pensée ou d'application d'une pensée. On trouve alors les expressions d'entrée en matière, de table des matières ou encore donner matière à. Enfin, le sens philosophique de la matière associe généralement le terme au fond indéterminé de l'être que la forme organise en opposition à la forme et en relation avec la substance. La matière est ainsi une substance qui constitue les corps perçus par les sens. La matière charrie son lot de sensorialité, de sensualité, de grossièreté, à l'opposé de l'esprit vu comme un raffinement de l'activité philosophique. Ainsi, ce cycle matière à penser se questionne entre autres sur deux questions. Ce que peut bien faire un esprit plongé dans la matière, ou alors ce que peut bien être une matière dont la plasticité même produit de la pensée.
Christian Jacob, sur ce terme de matière, comment est-ce que vous la comprenez ? Peut-être comment est-ce que vous la concevez en relation avec le lieu qui a fait l'objet de vos investigations ?
Ça marche. Bonsoir. Merci pour cette invitation et cette provocation à penser. Donc les liens entre la matière et le lieu, donc vous venez de faire une archéologie conceptuelle et historique du mot matière qui est intéressante et qui sont intéressantes et qui recoupent effectivement de différentes dimensions, différentes disciplines, différents domaines. La matière, c'est un point de départ, c'est une base, c'est effectivement une substance. Je crois que la question qu'on va débattre, c'est de comprendre comment une matière génère des objets, finalement, génère des concepts, des idées, des images et des artefacts. qui peuvent être mentaux, mais aussi matériels. Quant au lieu, est-ce qu'il existe une matière sans lieu, ou un lieu sans matière? Donc là, je crois qu'il faudrait remonter au présocratique, mais on n'a pas le temps en 45 minutes. Mais bon, c'est une question évidemment philosophique qui recoupe toutes les cosmologies, au moins dans l'Antiquité, je crois encore aujourd'hui. Le lieu implique forme, dimension, profondeur, mesurabilité, symétrie ou dissymétrie, possibilité de parcours, possibilité également de s'y installer, de le traverser, de l'habiter, de l'aménager, de le décorer. Le lieu est un espace, déjà j'emploie des termes, je ne suis pas sûr que les lieux soient toujours des espaces, mais le lieu est quelque chose que l'on pratique, je dirais, à tous les sens du terme. Donc c'est aussi un point commun avec la matière. Donc voilà, j'ai fait un petit bout de chemin et je suis devant différents embranchements. Donc dans quelle direction souhaitez-vous que nous cheminions à partir de maintenant?
On reviendra sur les lieux de savoir, mais dans l'acception que vous donnez au terme de lieu, dans les lieux de savoir, cela comprend des pratiques, des gestes. On est finalement très proche sur certains points de la conception d'une matière comme étendue. En fait, on voit bien que le point de contact va se faire à cet endroit-là, mais une étendue qui est habitée, manipulée, utilisée dans un certain nombre de gestes qui sont des pratiques aussi bien sociales qu'intellectuelles. Et il y a là quelque chose, un point qui est d'abord un point de contact en fait, entre les recherches qui se déploie autour du concept de lieu et celle qui pourrait se déployer autour du concept de matière. Alors après, il y a cette acception effectivement très rhétorique de la matière comme étant finalement la substance même de la pensée, puisque c'est, on parlera d'une table des matières qui sont elles-mêmes des objets de pensée. Donc la matière en quelque sorte ici est seconde.
Oui, donc si on essaye de reprendre cette notion de lieu de savoir, je crois qu'elle conduit à une déclinaison depuis la plus grande matérialité, une architecture, un bâtiment, ou même à une échelle supérieure, une ville, une région, un quartier, des monuments. Donc ce qu'il y a de plus matériel, et on peut descendre au fil, en suivant différentes échelles, c'est-à-dire on est dans une salle, dans un bâtiment, on va dans une salle, puis on s'attache à des meubles, à des mobiliers, à des aménagements, à une décoration, puis on regarde ce qui se trouve sur les tables, sur les étagères, sur les murs, alors ça peut être des images, ça peut être des livres, du papier. Et ensuite, toujours sur le mode d'une descente un petit peu vertigineuse, comme avec Google Maps, on peut se focaliser sur le frontispice d'un livre, ou une page, ou des notes de bas de page, ou parfois simplement une phrase ou un mot, qui sont aussi des lieux, des lieux de savoir. Et donc, au fur et à mesure de cette déclinaison, on passe d'opérations qui sont tout à fait physiques, se déplacer, s'asseoir, s'orienter, regarder, se positionner. Et cette pragmatique du corps est très, très importante, je crois. C'est-à-dire on ne pense pas de la même façon si on est assis, si on est debout, si on se promène, si on va dehors, si on reste dedans, si on est dans un studiolo sans fenêtre, ou au contraire, si on a un vaste panorama devant soi. On préfère une histoire entière de la philosophie et des arts en fonction de ces cadres matériels et physiques de la pensée. Donc positionnement du corps, et puis si on suit à nouveau cette focalisation des échelles, l'attention se porte porte sur le regard, sur les gestes, sur les expressions du visage qui expriment la concentration et la fixation sur un livre, sur un objet, sur un instrument, sur une matière que l'on manipule. Et le terme manipuler est important. Tenir un microscope, tenir un crayon, tenir une page, entrouvrir un livre, dérouler un rouleau de papyrus, enfin, sont des choses très, très importantes où la matérialité est là, que l'on soit lecteur ou scripteur ou écrivain. Et on arrive ensuite à des lieux, alors sont-ils immatériels, les lieux de pensée, la topographie, l'organisation en lieu organise, vous le savez bien, des espaces mentaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans son esprit une bibliothèque où l'on range des choses, on peut avoir dans son esprit une architecture où l'on mettra des objets de mémoire que l'on réveillera en parcourant en imagination les pièces de cette architecture. Et ensuite vient le travail de la pensée. Moi j'aime bien considérer le travail de la pensée comme une forme d'atelier avec ses acteurs, avec ses matières premières, ses instruments, ses outils, ses moments d'activité fébrile et ses moments de latence et des étapes de production qui peuvent aller de la réflexion à la méditation, à la remémorisation, au raisonnement, au fait d'écrire, puis ensuite de partager ce que l'on a écrit avec des lecteurs ou des auditeurs, et de défendre ce que l'on a écrit auprès de contradicteurs, de l'enseigner, d'en prouver la vérité, etc. Et donc ces opérations vont du plus invisible en apparence. C'est ce qui se passe dans la matérialité de nos systèmes nerveux, avec ces millions de neurones, de connexions, de synapses, qui sont un peu, enfin, sont bien réelles, ont une existence réelle, avec des choses qui circulent, des connexions qui se font et qui permettent l'émergence des mots, des idées, des images, etc. Et cette étape peut se traduire, mais pas nécessairement en mots, en phrases, en discours, en choses que l'on écrit, en choses que l'on dit. Mais il y a des pensées qui peuvent rester fugitives, invisibles, des matériaux que l'on n'a pas le temps de travailler parce qu'ils passent trop vite, ils disparaissent trop vite. Et cet atelier, donc on n'y est pas seul, enfin on aura l'occasion d'en parler. Il y a toujours beaucoup de monde dans ces ateliers de la pensée. Il y a les gens à partir de qui on pense, les gens que l'on a lus, les gens dont on se souvient. Et je pense que la langue elle-même est porteuse de toute une mémoire. C'est-à-dire pour des philosophes, par exemple, parler de dispositifs ou d'épistémés, ça convoque Michel Foucault, dont on parlait, et on pourrait dire les idées, ça convoque Platon. Donc on n'est pas seul, il y a Platon, Foucault qui viennent penser avec nous. Voilà, donc cet atelier, donc je disais que c'est un lieu où on travaille, c'est-à-dire il y a des matériaux, des idées, des intuitions, des concepts, il y a des outils. Ça peut être la linguistique, la logique, la mnémotechnique, des grilles anthropologiques, sociologiques, etc., qui sont des outils permettant de travailler. Et on aboutit à des artefacts qui peuvent être une idée lumineuse, une découverte, un texte, un livre, une théorie, ou parfois une œuvre d'art ou même une vie entière. C'est-à-dire, je pense que certaines vies savantes sont des vies qui ont été forgées, créées, sculptées par les personnes qui les ont vécues, et que la vie est l'œuvre d'une certaine façon.
Ça me fait penser à quelque chose que j'ai testé auprès de mes étudiants cette année. C'est de leur expliquer qu'effectivement, la pensée est un atelier. C'est une manière aussi de leur rendre accessible la pensée, puisque bah, les jeunes étudiants souvent se font une grande idée, finalement, de l'idée ou de la pensée. Et en général, ils ont du mal à se dire qu'eux aussi peuvent produire de la pensée, provoquer de la pensée. Et c'est vrai que voilà, cette entrée dans la matière, dans ce magma, dans quelque chose qu'on façonne, qu'on détruit ou qu'on remâche, où l'erreur est permise, c'est quand même un formidable élan de démocratisation, finalement, de la pensée, de la prendre par la matière. Voilà.
Oui, peut-être qu'on peut continuer sur ce questionnement de ce qu'est la pensée, ou plutôt le verbe « penser » au regard du savoir, qui était le terme que vous aviez retenu et sur lequel vous avez élaboré collectivement cette somme des lieux de savoir. Un point qui vient d'être soulevé, hein, c'est à quel point la question même de la matérialité se manifeste dans la langue et dans le vocabulaire qu'on emploie pour décrire le geste de la pensée. On va creuser, on va forger, on va forer, à peu près autant finalement que de termes qui vont relever du domaine de l'espace. On va explorer, par exemple. Et donc, autour donc, de cette substitution de la question du penser à l'infinitif au savoir, quelle voie ou quelle possibilité, quelle redirection peut-être cela vous paraît susceptible de soulever ?
Ben, je crois qu'on retrouve l'idée de la pensée comme travail. Mmh. Et donc ça ouvre deux perspectives. Le travail, enfin la pensée la plus abstraite, la plus intellectuelle, la plus conceptuelle, comme travail presque manuel, comme travail avec des opérations, des gestes, des outils, des procédures, des séquences opératoires, et d'autre part, le travail manuel comme pensée. C'est-à-dire il y a de la pensée qui se met dans les mains, qui se cristallise dans l'habileté d'un artisan, d'un artiste, dans la fulgurance d'un geste, d'un trait, ou dans le savoir-faire d'un potier qui sait donner l'impulsion pour créer une forme donnée, ou le savoir-faire d'un sculpteur, ou encore d'un réparateur de moto, pour prendre l'exemple développé par Richard Sennett dans un très beau livre « Ce que c'est la main ». Donc voilà, il y a un petit peu ces deux aspects. Et pour le travail intellectuel, effectivement, c'est très frappant de constater que la langue française déploie un très très riche lexique métaphorique, celui de la construction, de l'architecture, de la menuiserie, de la métallurgie, du tissage, pour décrire les actes de pensée. Donc il y a plusieurs hypothèses, plusieurs manières d'interpréter ça. S'agit-il d'un invariant essentiel, de quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine, c'est-à-dire lorsque nous parlons ou lorsque nous essayons d'expliquer comment nous pensons, est-on en quelque sorte obligé d'avoir recours à tout un lexique de la manipulation, de faire tourner des objets intellectuels dans son esprit, les manier, les découper, les sculpter, leur donner forme, les creuser, les bétonner, etc., 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 créer des clés de voûte pour des raisonnements, tout un... Donc est-ce que c'est quelque chose d'invariant et qui serait lié à des constantes presque biologiques? Enfin, je me suis intéressé à un moment donné au geste de la main que nous faisons quand nous parlons. Vous avez sans doute tous remarqué, et ces gestes ne sont pas des invariants, ils ont des significations culturelles, c'est-à-dire un Italien, un Japonais, un Français, un Américain ne feront pas les mêmes gestes quand ils parlent. et les gestes de la main accompagnent la production du discours, le scande, et tiennent. Alors, est-ce qu'ils tiennent un discours parallèle qui peut être parfois antinomique au discours oral, ou est-ce qu'ils le ponctuent et est-ce qu'ils le rendent plus crédible ? Vous savez que les hommes politiques contemporains ont des coachs qui leur apprennent à bouger les mains, parce que si on bouge les mains, on peut avoir des gestes menaçants, par exemple à la télévision. Il y a d'autres hommes politiques qui ont des attitudes complètement christiques, en écartant les mains, en écartant les bras. Il y en a qui soupèsent, il y en a qui enfoncent, il y en a qui pointent, qui accusent. Donc il y a tout un discours qui est lié au geste de la main, comme si on ne pouvait pas raisonner sans bouger les mains. Et il y a des expériences, alors qui ne sont pas forcément très concluantes, mais qui sont très suggestives auprès d'enfants d'école, de collèges, qui font des exercices de mathématiques au tableau, par exemple, au tableau noir. Donc on leur demande, la maîtresse écrit une opération un peu complexe ou une équation, et le petit gamin ou la petite gamine doit résoudre l'opération en verbalisant et en raisonnant à haute voix, et parfois en accompagnant le raisonnement à haute voix avec les gestes de la main. Et des psychologues ont remarqué cette chose très étonnante, que parfois les enfants peuvent se tromper dans le raisonnement oralisé, c'est-à-dire faire une erreur de calcul, mais que les gestes de la main indiquent qu'ils ont compris le raisonnement et qu'ils ont su regrouper les variables d'une équation ou autre, et que la main a compris quelque chose que le discours n'a pas su expliciter. C'est tout à fait passionnant. Hein. Donc voilà, ça veut dire... j'évoque cela parce que on pourrait tenter d'imaginer une détermination anthropologique sur la très très longue durée qui remonterait à la préhistoire où ces hommes préhistoriques du paléolithique qui prennent un bloc de pierre en main, qui le soupèsent, le font tourner devant leurs yeux, choisissent le meilleur angle pour le percuter, l'évaluent, en évaluent le potentiel en termes de production d'outillage. Il y a là quelque chose qui n'est pas sans rapport avec l'intellectuel contemporain ou le mathématicien, le philosophe qui soupèse une question, cherche le meilleur angle d'attaque pour traiter d'un problème, décide de contourner un obstacle ou de profiter d'un accident de parcours, de même qu'un artisan peut à un moment donné faire partir un éclat qui va détourner le cours normal des choses, du travail. Un savant, un intellectuel, un penseur ou un scientifique peut faire une erreur à un moment donné, un lapsus, partir sur un terme ou sur une intuition, une digression, et être amené à s'adapter à quelque chose. Donc, enfin là, ce sont uniquement des questions, des réflexions à haute voix, mais qui m'ont conduit à m'intéresser aux paléontologues qui, en Afrique, par exemple, recherchent les témoins, les preuves indiscutables d'une main proto-humaine, d'un fossile de main proto-humaine, par rapport à des mains qui appartiennent davantage à des primates, à des grands singes. Et ces paléontologues ont trouvé deux traits indiscutables qui tiennent aux articulations de la main. Et ce qui caractérise une main proto-humaine, c'est le fait de pouvoir joindre le pouce, de pouvoir joindre deux doigts comme ça et de saisir quelque chose, et le fait de pouvoir également soutenir quelque chose dans la paume de la main. Et ces deux capacités réunies permettent de mettre un bloc de pierre dans une main et avec l'autre de saisir un bâton ou un autre bloc de pierre pour le percuter, ce qui suppose évidemment la station debout et la libération des membres antérieurs de la fonction de mobilité. Et puis aussi le dégagement de la tête, la capacité de vocaliser, du langage, etc. Donc c'est tout à fait passionnant parce que voilà, on serait tenté d'imaginer une histoire possible de la pensée depuis les gestes très primitifs de l'homme préhistorique jusqu'à la pensée spéculative de l'homme moderne. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on a une idée qu'on croit géniale, on dit souvent « Ah ben, je viens juste de percuter », ce qui est rigolo parce que c'est tout à fait le geste de l'australopithèque. Voilà, donc... Alors ça c'est une perspective... d'interprétation, et l'autre sur laquelle je suis en train de réfléchir mais qui est tout aussi intéressante, c'est de se dire que la langue française est particulière et que ces métaphores aujourd'hui résultent aussi d'une socio-histoire particulière, l'émergence de métiers, de corps de métiers, de corporations artisanales, du compagnonnage, avec tout un ensemble de valeurs symboliques attachées aux outils et au savoir-faire. Donc la seule solution pour trancher entre ces deux alternatives, c'est de faire une comparaison très large dans le temps et entre les langues d'aujourd'hui pour voir si ces métaphores sont universelles ou très localisées.
Alors peut-être parlons carte maintenant. Ah. on change d'univers et parlons carte. Dans l'Empire des cartes, vous avez écrit « La carte donne à penser autant qu'à voir. Elle matérialise une vue de l'esprit plus qu'une image du réel. Elle projette l'ordre de la raison sur l'ordre du monde, l'assujettit à une rationalité graphique, à une grille culturelle et à une géométrie conceptuelle. » Fin de la citation. En fait, si on peut concevoir donc la carte comme un instrument, un outil dans cette construction rationnelle du monde, donc sur lequel s'exerce la pensée ou par laquelle s'exerce la pensée, vous dites, vous racontez qu'elle opère elle-même en retour par, je cite, un pouvoir de séduction imaginaire, par des enjeux oniriques et mythiques. Les rêveries auxquelles elle invite le regard dès qu'il se laisse glisser librement sur sa surface, comme si ce type de représentation constituait un espace de projection privilégié pour les désirs, les aspirations, la mémoire affective, la mémoire culturelle du sujet. Alors peut-être qu'on peut réfléchir à partir de là sur la carte comme matière à penser, et encore une fois avec toute cette pluralité hein, de signification du terme de matière, à la fois comme une surface projective, comme une matière à traverser et à travailler, ou comme une machine à produire, par exemple de la rêverie.
Oui, c'est-à-dire la carte comme tout un ensemble d'autres inscriptions, les schémas, les tableaux, les diagrammes cosmologiques, etc., a finalement une double fonction, celle de créer un objet qui ne lui préexiste pas, et très souvent, et même encore aujourd'hui, tracer une carte, c'est créer un monde, en postulant donc un lien particulier entre le monde réel et cette carte. Mais pour un historien de la cartographie, les cartes tibétaines, chinoises, amérindiennes, médiévales, grecques, romaines, ont tout aussi bien servi à faire penser le monde dans lequel leurs producteurs vivaient que nos images par satellite, qui sont pour nous le summum de l'image réaliste. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la cartographie doit s'affranchir de l'illusion ou de la sécurité de la référentialité, et donc d'une approche téléologique qui dénoncerait les erreurs du passé pour assigner à la carte simplement une fonction mimétique. Une carte fausse peut être tout aussi efficace qu'une carte vraie, parce qu'elle donne à penser un univers, elle transforme des mots, des phrases, un imaginaire en quelque chose de graphique, de visible, que l'on peut partager, que l'on peut socialiser, afficher, et qui est instituée socialement et politiquement, c'est-à-dire une carte a un pouvoir extraordinaire. Et les cartes maritimes du XVIe siècle, avec leur réseau de lignes géométriques, ces lignes des vents, témoignaient d'un optimisme absolument génial. C'est-à-dire que vous partiez de, je ne sais pas, de Lisbonne ou de Brest ou de Dieppe, il suffisait de suivre une de ces lignes et vous arriviez à Terre-Neuve ou au Brésil. En fait, vous n'y arriviez pas parce que ces cartes, enfin, ces lignes droites ne respectaient pas la courbure du globe, donc c'était une géométrie a priori, une vue de l'esprit, et qui avait évidemment d'autres moyens de navigation, mais le monde était stabilisé comme les murs d'un immeuble pris dans des étés, dans des échafaudages, c'est-à-dire le monde ne pouvait plus bouger, et donc c'était extraordinairement rassurant de la voir devant soi sous la forme d'une map-monde, d'une carte marine, ou d'un globe, ou d'un atlas. Et l'autre aspect, effectivement, c'est que une carte comme une sculpture, un tableau, une image, un film, une pièce de théâtre sert de support à des émotions, des sentiments beaucoup plus imprédictibles qui ont affaire avec l'intime, avec les souvenirs, la sensibilité, l'expérience, l'imagination. Et des choses qui ne sont pas nécessairement formulables ou explicitables. On est là dans le domaine de l'émotion, et l'émotion est aussi une forme de pensée, bien sûr. Mais donc pour la cartographie, c'est évidemment l'invitation au voyage dans un fauteuil. C'est l'invitation à des jeux de rôle, à des projections, à des récits initiatiques où on affronte des monstres, des tempêtes, des sauvages, des cannibales, on affronte l'inconnu et où on se dépayse. Enfin, il y a très peu de dispositifs qui permettent de se dire « je suis ici, en même temps je suis là » ou « je suis là ». Et c'est ce que vous faites quand vous regardez une carte ou même un plan de ville qui vous dit vous êtes ici, ce qui est je trouve un abus de pouvoir et c'est tout à fait extraordinaire. On a parfaitement le droit de ne pas être là et de se sentir complètement ailleurs. C'est un acte métaphysique très très fort que d'assigner une position. Une carte permet une certaine ubiquité. Et du reste, il y aurait beaucoup de choses à dire, par exemple, sur les globes qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que vous êtes en position d'extériorité et vous regardez le monde depuis le point de vue des dieux ou des oiseaux. Et les globes célestes, c'est encore pire parce que les globes célestes, vous êtes dans un non-lieu finalement, puisque vous voyez sur la surface du globe les constellations telles qu'on les voit depuis le centre de la Terre. Donc c'est un point de vue complètement impossible sur lequel les philosophes grecs ont beaucoup réfléchi, d'autant plus que pour eux le ciel était une sphère finie, il n'y avait rien au-delà, et que donc quand vous regardiez une sphère céleste de l'extérieur, c'est-à-dire depuis nulle part, c'était une opération intellectuelle tout à fait extraordinaire, comme regarder un mandala au Tibet, c'est-à-dire c'était une opération spirituelle, philosophique, métaphysique, et ça va bien au-delà de l'histoire des sciences, évidemment.
Dans ce que vous venez de dire, Descartes, j'entends à la fois deux choses. La première, elle touche à la question de la pensée. Vous avez parlé de l'imprédictible. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté de définir la pensée dans cette matière à penser. Parce que d'un certain côté, la pensée, on pourrait dire qu'on pense tout le temps. Ça peut être vu comme un flux permanent de choses informes, alors qu'on a tenté de définir tout à l'heure la pensée par peut-être l'exercice d'une forme. Et en même temps, ce que nous cherchons à soulever, c'est cette possibilité d'une pensée nouvelle, imprédictible. Donc il y a là une rencontre entre quelque chose qui serait de l'ordre, vous avez évoqué, peut-être de l'émotion, de l'intime, enfin, quelque chose qui va permettre tout à coup de sortir de ce qui serait une représentation déjà de la pensée, le surgissement comme ça de l'imprédictible. Et de l'autre côté, vous avez évoqué plusieurs... Enfin, la carte, en fait, est elle-même une matière, c'est un support, c'est un geste qui va inscrire, apposer ou au contraire soustraire de la matière pour graver une carte. C'est donc bien une matière et un travail de la matière qui est contraint par des gestes techniques, par des savoir-faire, et donc cette représentation elle-même, elle est la résultante d'une façon d'affronter la matière qui elle-même va résister, se laisser faire ou pas, faire tâche ou faire ligne, faire un creux gravé ou faire un relief, et de cette confrontation à la matérialité même de l'objet qui va faire carte naît une façon de représenter, une façon de penser elle-même.
Oui, enfin, je ne peux qu'être d'accord, et il y aurait sans doute une distinction ou une déclinaison à faire des tracés cartographiques sur les cartes anciennes, et ce qui est parfaitement intéressant sont les terres inconnues, terra incognita, c'est-à-dire donc les pays sur lesquels on n'a aucune information, mais qu'il faut quand même dessiner, parce qu'on ne peut pas laisser des rivages ouverts sur une carte. Enfin, ça s'est parfois fait, mais c'est toujours gênant, parce que bon, c'est une ouverture où la Terre peut fuir vers l'océan, ou inversement, l'océan peut envahir la Terre. Donc il faut fermer le contour. Et donc, on peut décider d'avoir un tracé géométrique tout droit, voilà, où on peut essayer de produire un effet de réel et imaginer un territoire possible, donc avec des sinuosités, des estuaires, des caps, des promontoires, alors que vous avez écrit « Terre inconnue » à l'intérieur de cet espace. Mais il y a effectivement une matérialité du geste qui peut être très automatique, très, très machinale. Il y a des cartes du XVIe siècle qui sont passionnantes parce que elle représente des archipels dans l'océan Indien sur lesquels bon, il y avait des informations, évidemment, des marchands, mais ces archipels sont dessinés sous la forme de corps presque cellulaires. C'est presque des amibes, des paramécies, des bactéries qui prolifèrent graphiquement et remplissent complètement l'espace de la mer avec des couleurs très, très, très frappantes. Et on retrouve des gestes qui font des vagues, qui font des échancrures, qui font des cercles, qui restitue les dynamiques d'une main, d'un pinceau, d'un crayon, dans une démarche qui est imaginaire, production d'une image au sens propre.
Alors de la carte, restons sur le domaine de l'inscription et peut-être parlons un peu bibliothèque. Dans le pouvoir des bibliothèques, vous êtes très attentif à la matérialité de la bibliothèque, où vous parlez des effets cognitifs inhérents à l'accumulation des livres, à leur matérialité, aux liens qu'ils tissent entre eux et avec le monde. Et cet ouvrage que vous avez dirigé se clôt sur un texte de Anne-Patrick Poirier qui évoque, sous le titre de Mnémosyne, une très grande bibliothèque, fantastique ou fantasmatique, structurée selon les niveaux temporels de la conscience, avec un sous-sol, par exemple, qui est décrit comme l'espace de l'oubli, avec une répartition quadripartite selon les modes de connaissance passionnels, intuitifs, expérimentaux, spéculatifs. Une très grande bibliothèque avec un plan qui, je cite, fait penser à un cerveau mis à nu et dont on aurait pu suivre les méandres. Un cerveau mutilé, frappé de désordre et d'amnésie. Alors évidemment, cette image est très frappante. Pensez la bibliothèque non pas simplement comme un lieu susceptible d'accueillir celui qui pense, mais comme une matière à traverser, à travailler, à laquelle se colter. Qu'est-ce que ça apporte ?
Une bibliothèque, c'est effectivement un lieu, c'est un espace, mais c'est bien autre chose. C'est une collection d'objets, c'est un espace habité, un espace hanté, un espace meublé par des milliers de voix qui peuvent créer des polyphonies ou des cacophonies parfois. C'est un espace de circulation, un espace vertigineux et qui engendre tout un ensemble de rêves. Enfin, il suffit de se souvenir de Borges ou de remonter jusqu'à Alexandrie avec le rêve de complétude, la bibliothèque universelle, mais qui en même temps menaçait de destruction et d'incendie, c'est-à-dire perte totale de la mémoire. La bibliothèque labyrinthe, la bibliothèque dont on n'arrive pas à sortir, la bibliothèque qui tourne en boucle avec les mêmes livres qui reviennent constamment, la bibliothèque qui perd ses principes d'ordre et qui devient imprévisible, ou la bibliothèque qui peut penser. Et là, c'est quelque chose sur quoi je travaille avec des collègues. On est en train d'imaginer une bibliothèque numérique qui pense, contrairement à Google qui ne pense pas. Ce sont des algorithmes basés sur tout un ensemble de critères, mais là, Google ne pense pas. Donc, une bibliothèque, c'est autre chose que la somme de ses objets, c'est-à-dire si vous faites l'inventaire d'une bibliothèque livre par livre. Non, la bibliothèque, c'est autre chose. C'est la totalité de ses livres et les parcours qu'elle permet. Et donc, Anne et Patrick Poirier ont beaucoup travaillé sur Mnemosyne. Ils ont aussi travaillé sur une autre bibliothèque qu'ils ont construite. D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas été exposée au Centre Pompidou à un moment donné. Une bibliothèque qui s'appelle Ouranopolis et qui est une sorte de roues, comme un ovni, un petit peu style 2001, l'Odyssée de l'espace, suspendu dans l'espace, avec des dizaines de salles qui ressemblent beaucoup à des architectures antiques. Et il y a la bibliothèque d'Abby Warburg, qui est un petit peu le modèle dont on voudrait s'inspirer, où les livres sont classés selon des affinités intellectuelles et non pas selon un ordre bibliographique ou un ordre catalographique. C'est-à-dire que l'idée de Warburg, c'était que quelqu'un qui prend un livre sur un rayonnage trouvera dans l'emplacement immédiatement voisin un second livre qui entrera en résonance avec le premier. Non pas parce qu'il traite de la même chose ou de la même époque ou du même lieu ou du même artiste, mais parce que ce second livre entre en résonance, élargit, déploie, reconfigure, approfondit, ouvre un nouvel horizon par rapport au premier. Et ça, c'est, on a tous fait l'expérience en bibliothèque, et parfois dans de très bonnes librairies, de repartir avec des livres qu'on n'avait pas prévu de choisir, parce que le hasard des contiguïtés nous met en présence d'un ouvrage qui nous interpelle. Donc voilà, les bibliothèques sont des lieux qui pensent, des lieux où l'on pense. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les aménagements intérieurs. Vous savez qu'au Moyen-Âge, c'était les lecteurs qui se déplaçaient pour aller sur les pupitres où étaient les livres, c'est-à-dire les livres étaient littéralement enchaînés sur des pupitres pour pas qu'on les vole, j'imagine. Ça va donner des idées aux bibliothécaires de la BPI, j'imagine. Et donc les lecteurs devaient se déplacer de banc en banc pour lire tel commentaire de Saint-Paul, telle édition d'Aristote ou autre. Donc là, il y a une topographie où l'on se déplace et il y a d'autres bibliothèques où on reste complètement immobile et où l'on parcourt sur un écran d'ordinateur des centaines, des milliers de livres. Donc il y a voilà, la bibliothèque comme atelier, avec ses artisans, ses outils, ses matériaux, ses gisements. Je pense que la bibliothèque est peut-être un des derniers lieux magiques. C'est plus la télévision, c'est pas l'Internet. Mais la bibliothèque, c'est quand même extraordinaire. C'est un lieu où, je sais pas, par le biais de la lecture, vous rentrez en contact avec des gens qui ont écrit, parfois il y a 2500 ans ou plus, qui ont écrit dans d'autres langues, des gens dont vous ignorez tout, et ces espèces de traces sur un papier, laissées sur un papier, sur un support matériel, vont déclencher, comme les cartes, des effets de sens, des associations, des contresens, de la distraction, de l'ennui et parfois des intuitions. Donc là, il y a une coproduction de la pensée, une coproduction, c'est ce que je disais, enfin, la pensée est un atelier où on travaille avec des tas de... où il y a des communautés entières qui se déploient, et la bibliothèque, c'est un lieu où on travaille avec à la fois le personnel actuel de la bibliothèque, où on travaille avec tous les lecteurs qui nous entourent, qui nous distraient parfois, qui font du bruit, qui se grattent le nez, qui mangent un gâteau, qui parfois l'oublient au milieu du livre, etc. etc. Et c'est un lieu où l'on est avec des ombres. On peut être avec Foucault, avec Barthes. Moi, je peux retrouver mon maître Marcel Détienne, qui a disparu il y a quelques jours. Il suffit que j'ouvre un de ses livres pour entendre sa voix, ce qui est tout à fait extraordinaire. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre, pas de la nécromancie, mais voilà, je crois que c'est un des derniers espaces sacrés et vraiment magiques que l'on puisse fréquenter aujourd'hui.
Donc du coup, penser en bibliothèque, est-ce que ça ne serait pas trouver un point d'ancrage pour recevoir une sorte de vertige de référence? Parce que passer une après-midi à la bibliothèque donne souvent le vertige, je trouve. Voilà, quand on prend la mesure de ce qui a été déjà écrit sur le sujet qu'on travaille, ou quand on prend la mesure de ce qui nous reste à apprendre ou de ce que nous n'arriverons jamais à apprendre, souvent faute de temps finalement. Et donc, est-ce que vous seriez d'accord avec l'idée qu'il y a une nécessité contemporaine de s'arrimer à une place temporaire ou parfois une place qu'on visite quotidiennement? Voilà, cette nécessité de s'arrimer face au grand gouffre de la culture, et donc cette nécessité de se situer, de situer son corps dans un espace matériel, un besoin d'autant plus pressant que la connaissance et le savoir aujourd'hui se fluidifient, se dématérialisent. Donc penser en bibliothèque, est-ce que ça serait pas ça, s'arrimer?
Oui, et c'est aussi camper. Établir un campement avec un petit feu de camp pour écarter les ombres et les rôdeurs. Donc ce que je veux dire, c'est que là, la bibliothèque, depuis l'Antiquité, c'est un lieu qui excède les capacités de lecture individuelles. Et donc, c'est forcément nous confronter à notre finitude, à la nécessité de faire des choix, à la nécessité de faire des impasses pour avancer. Et c'est particulièrement vrai pour tous ceux qui vont en bibliothèque pour générer des projets d'écriture, que ce soit un mémoire de maîtrise, un mémoire de master, une thèse, un livre, où s'arrêter. Il y a quelque chose de vertigineux. Alors on a des dispositifs qui permettent de couper un peu les racines sans avoir à plonger dans le gouffre. C'est les notes de bas de page qui, comme Anthony Grafton l'a bien montré, les notes de bas de page, c'est un peu ce qui leste tout travail universitaire aujourd'hui, tout livre. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, je sais que cet article ou que ce livre existe, j'ai jeté un coup d'œil, je le connais, et pour les membres de mon jury, ne me reprochez pas de ne pas l'avoir vu. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais c'est donc une manière aussi de se rallier des garants, des assistants, des ancêtres, des prédécesseurs, des autorités, des témoins de bonne moralité intellectuelle qui viennent vous prêter main forte. C'est parfois aussi le moyen de dire je suis en désaccord, je critique, je corrige, je trouve ridicule les travaux, enfin tout un ensemble d'autres travaux. Et donc là, il y a peut-être quelque chose, enfin, dans ce travail de jardinage et de taillage de racines, il y a des domaines où on n'a pas besoin de descendre très profondément, où je veux dire le savoir et la pensée, la science peuvent être extrêmement actuels et avoir une durée de péremption, enfin comme les yaourts, de quelques semaines. Enfin, dans certaines branches mathématiques, le turnover des revues et des découvertes est extrêmement rapide. Par contre, dans d'autres domaines, l'histoire, la philosophie, on peut encore lire Platon, Aristote, Homère, et on peut remonter des généalogies entières jusqu'au début. Enfin, quel est le premier texte, quel est le... Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, ça touche aussi à la question des savoirs, des fondements des savoirs, et à cette capacité que l'on a d'encapsuler tout un ensemble de choses dans des mots, dans des énoncés, dans des phrases, sans avoir à déployer toutes les ramifications qui les fondent, parce qu'autrement on n'avancerait plus, on serait tout le temps en train de creuser pour... tester la solidité des racines, mais l'arbre ne pourrait plus pousser. Et les savoirs, c'est quand même une végétation. C'est un jardin, une forêt. Ce sont des choses qui poussent, qui verdissent, qui flétrissent. Tiens, je suis assez content de cette image. J'espère que c'est enregistré. Il faudra que je la retrouve.
Dans ce que vous venez d'évoquer, en fait, il y a un peu un double mouvement. Par exemple, dans le geste de constitution, comme ça, d'une somme bibliographique, il y a à la fois le fait d'effleurer, on est en surface, et en même temps quelque chose qui relève d'une matérialité pure et dure de la collection. Ça s'agit d'amasser, comme on peut amasser des livres qu'on ne lira pas, parce que comme ça, on sait qu'ils sont là, on se sent très rassuré par le fait qu'ils soient là à côté. Et donc, copier, coller... construire, fabriquer comme ça des collections qui sont autant de garants du droit que nous avons d'effleurer un certain nombre de sujets. Parfois, penser, c'est tracer des lignes ou cartographier à l'intérieur d'un terrain de savoir où on accepte finalement de s'arrêter extrêmement peu, ça et là. Il s'agit vraiment de filer au travers comme ça d'une matière très dense, en fait.
Oui, moi je pense à ce que vous dites me fait penser à finalement les constructions que l'on peut faire dans une vie savante, constructions à la fois intellectuelles et aussi très très matérielles, très concrètes. J'ai en mémoire une photo du bureau de Piaget, grand psychologue genevois, qui dans les dernières années de sa vie vivait dans une espèce de grotte avec des stalagmites de piles de livres qui montaient jusqu'au plafond. Il y en avait partout, sur le sol, sur son bureau, et il arrivait à grand-peine à se frayer un chemin et à s'asseoir sur un siège qui était à peu près dégagé, mais j'imagine qu'il n'avait même pas la place d'ouvrir un cahier sur son bureau. Et donc il y avait une sédimentation, une fossilisation, parce qu'évidemment les livres qui étaient tout en bas, enfin c'était impossible de les prendre à moins de tout faire tomber. Et donc on suppose que ça a marqué des strates successives d'intérêt, de recherche, de livres et de refus reçus, etc. Et après, enfin je crois récemment, nos collègues genevois ont voulu réaménager le bureau de Piaget pour en faire... Enfin, c'était un musée. et les piles de livres sont tombées, c'est-à-dire voilà, donc on saura, voilà, il y a quelque chose qui s'est écroulé, mais c'est tout à fait impressionnant. J'ai vu les photos, ces photos de Piaget à l'époque, entourées par ces stalagmites, ces colonnes de livres montant jusqu'au plafond, et perdues avec sa barbe blanche au milieu. Donc c'est une image tout à fait saisissante du combat entre la pensée et la matérialité, entre l'ordre et le désordre. Et je suppose qu'il y avait quelque chose de complètement paralysant à la fin dans un tel dispositif.
Et vous, votre bureau est-il bien rangé ?
J'en étais sûr. écoutez, moi je suis dans une phase de ce qu'on appelle de désherbage. Et je crois que tous les bibliothécaires connaissent ça. Sans passer par des sulfateuses de multinationales américaines, il faut de temps en temps désherber une bibliothèque et faire des choix drastiques et douloureux. C'est extraordinaire. C'est-à-dire maintenant, on ne peut plus rien faire avec les livres dont on n'a plus besoin. Parce que vous proposez ça à une bibliothèque qui vous dise... Non, on les a déjà, on ne prend pas de double, on n'a plus de place, il n'y a plus de rayonnage. Vous essayez de les vendre. J'ai essayé via un grossiste sur Internet qui rachète des livres et auprès duquel vous en avez sans doute acheté parce qu'il est sur une grande plateforme de vente sur Internet. Donc cette plateforme, vous rentrez l'ISBN du bouquin et il vous donne le prix de rachat. Donc c'est entre 10 centimes et 20 centimes le livre. C'est-à-dire, voilà, donc c'est même pas la peine de faire les paquets et d'aller à la poste. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les détruit ? Est-ce que je vais faire comme Bartle Bouffe dans La vie mode d'emploi de Pérec, c'est-à-dire j'ai passé une partie de ma vie à constituer une bibliothèque personnelle. Est-ce que la seconde partie de ma vie, je vais mettre chaque livre dans un bain d'acide pour effacer tous les caractères et réduire le papier à un chiffon pour finalement le dissoudre complètement. Enfin, je rêve un peu, mais voilà, l'espace de travail, Dieu merci, maintenant s'organise aussi selon des logiques différentes qui sont celles de l'informatique et ma bibliothèque informatique est beaucoup mieux rangée que ma bibliothèque matérielle.
Et en tant qu'historien, anthropologue, est-ce que vous pourriez énumérer quelques types de gestes spécifiques que vous exercez sur votre matière à penser ? Penser en historien, penser en anthropologue.
Chercher dans ma bibliothèque un livre dont je sais qu'il s'y trouve et ne pas le trouver et donc le recommander sur Amazon ou ailleurs. Donc je plaisante. Non, je dirais... Enfin, c'est des étapes de travail alors maintenant qui sont très largement informatisées. J'ai commencé à travailler au siècle dernier, c'était il y a très longtemps, au temps de la fiche en Bristol, la machine à boules, des fichiers où il fallait faire un fichier bibliographique à la main, etc. Et donc j'ai vu arriver les premiers Mac, les premiers ordinateurs portables, les premières bases de données, etc. Mais je suis resté très longtemps avec des carnets manuels, des carnets en papier, des petits carnets à spirale, qui se prêtaient à noter des idées, des références. Et c'est une sorte de journal. Alors, j'allais en bibliothèque, je notais des côtes de documents ou des titres. Puis en rentrant chez moi, je notais des idées sur ce que j'avais lu, etc. Donc j'ai encore ces carnets aujourd'hui, certains de ces carnets. Et je dirais que maintenant... Il y a des chaînes de travail qui associent très, très étroitement la lecture et l'écriture. Alors il y a des étapes, le surlignage d'un document, par exemple d'un e-book, l'extraction automatisée des surlignages pour en faire un fichier, puis ensuite l'interpolation de réflexions, de bribes, de commentaires dans ce fichier, puis après le stade de la rédaction Et donc, en ce moment, j'utilise un logiciel de rédaction un peu modulaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'écrire dans l'ordre des chapitres ou des paragraphes. Vous pouvez choisir de réagencer ce que vous écrivez, et surtout, vous avez deux niveaux. Vous avez un niveau de notes de travail et un niveau de rédaction. Et évidemment, tout cela est mis sur le cloud et sauvegardé sur trois ordinateurs à la fois pour ne pas risquer de perdre quoi que ce soit. Mais je dirais que maintenant, il n'y a pas d'immatérialité, puisque l'informatique, c'est extraordinairement matériel. Il y a des logiciels, il y a des supports, il y a des processeurs, des disques durs, de la mémoire vive, etc. Donc c'est très, très matériel. Mais il y a sans doute de nouveaux savoir-faire où l'on doit devenir son propre bibliothécaire, son propre archiviste. Et on est confronté à des masses documentaires très très importantes. Et ce que l'on gagne en profusion documentaire, il faut le renforcer par des capacités critiques encore plus grandes, puisqu'il y a évidemment la tentation de prendre pour argent comptant tout ce qu'on trouve sur Internet, même sur Wikipédia. Donc l'une de nos responsabilités en tant qu'enseignant-chercheur, c'est aussi d'apprendre à des jeunes qui sont nativement numériques à acquérir une distance critique pour recouper des informations, évaluer, hiérarchiser. Et à l'heure des fake news, ce n'est pas une mince affaire.
On va peut-être passer à un temps de questions de la salle. Est-ce que
le micro semble ne pas fonctionner.
C'est bon. On a compris qu'il y avait effectivement de la pensée un peu partout, de différentes manières, aussi bien matérielles qu'immatérielles. Mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut penser des matières ou des lieux qui résistent à la pensée, voire des matières ou des lieux qui sont faits pour ne pas penser ?
C'est une très belle question. C'est une très belle question parce que je crois qu'on s'est laissé emporter par une sorte d'optimisme très très rationaliste et une foi dans les pouvoirs de l'intellect humain. Donc, est-ce qu'il y a des lieux où on ne peut pas penser ? Oui, je pense qu'il y en a. Enfin, la première chose qui viendrait à l'esprit, c'est Auschwitz, par exemple. Est-ce qu'il y a des lieux qui paralysent complètement la pensée ? Oui, parce que on ne pense pas tout le temps. Il y a des fois où des opérations mentales peuvent s'appuyer sur autre chose que la logique, l'association, la verbalisation. On peut ressentir des choses physiquement, on peut ressentir des émotions, des émotions esthétiques, spirituelles, religieuses, etc. Et il y a des fois, il y a aussi des fois où on n'a aucune inspiration, c'est-à-dire la pensée est quelque chose qu'il faut entraîner, qu'il faut parfois provoquer. C'est pas toujours facile de penser. Et il y a des fois où il faut simplement renoncer et laisser les choses reposer jusqu'au lendemain. Et il y a des fois aussi où une pensée surgit alors qu'on ne s'y attend pas du tout. Donc je dirais qu'il y a un côté physiologique il y a des fois où la pensée se bloque Et à ce moment-là, il faut trouver des diversions, il faut contourner l'obstacle, il faut se distraire, avoir des routines de, je sais pas, de distraction, avoir des objets fétiches éventuellement. Je pense que ce qu'on a sur nos tables de travail, sur nos étagères avec des bibelots, des photos, des coquillages, des pierres, etc., c'est aussi des choses qui aident à détourner, à recentrer la pensée. Un petit peu comme les boules de cristal des voyantes, si je puis dire. Et que donc il y a certainement des routines que l'on peut adopter ou cultiver pour pallier à un moment les pannes de la pensée. Oui. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à votre question. Mais...
Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conversation très, 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 enfin, qui m'a beaucoup inspirée et illuminée. Je me demandais, vous avez beaucoup, enfin, vous semblez très ancré dans l'innovation. Enfin, c'est peut-être un paradoxe de mots, mais en tout cas, pensez beaucoup à l'innovation. Et par rapport à l'homme vraiment moderne qui fait des recherches en bibliothèque ou par rapport à son mode de pensée, vous avez évoqué à un moment penser, enfin, le recours à, à un mode de connaissance, je voudrais dire artificielle, c'est là où va le sens de mon raisonnement, mais je voudrais vous demander si vous pensez que l'homme de demain, avec les nouveaux outils de pensée, par exemple, vous avez évoqué la bibliothèque savante qui permettrait d'avoir un cheminement de pensée intelligent. Voilà, j'aimerais savoir votre point de vue par rapport à ça, parce qu'on en a, on en a très envie, mais on en a peur aussi. Et donc, voilà, je voulais savoir par rapport à ça.
Là, c'est un très vaste, très vaste sujet. Votre question touche à l'intelligence artificielle, bien sûr, et aussi à ce qu'on peut appeler l'homme augmenté. Donc, avec que l'on voit dans la science-fiction avec des implants cérébraux, des capacités d'uploader ou de télécharger de la mémoire et éventuellement des savoirs. Donc est-ce que c'est souhaitable ou pas? Est-ce que c'est possible? Il me semble avoir vu que certains Américains comme... certains Américains travaillent, ont créé des start-up pour développer des interfaces de transfert à très haut débit entre le cerveau humain et des supports informatiques. Mais aucune expérience n'a encore fonctionné. Hein. Mais, en tout cas, il y a eu des levées de fonds très, très importantes. Et c'est cet homme d'affaires américain, Musk,
Elon Musk.
Oui, voilà, c'est ça, qui a créé une start-up. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est un domaine tout à fait passionnant, évidemment. Est-ce que les machines vont penser mieux que nous? Et d'abord, est-ce que les machines pensent? Et la réponse, pour le moment, est non. C'est-à-dire, et ça vient vraiment des gens qui font de l'intelligence artificielle, les machines peuvent développer des routines extraordinairement sophistiquées avec des capacités d'apprentissage, de reconnaissance, d'automatisation, par exemple dans le domaine médical où... pour détecter des anomalies sur des radiographies ou des examens, une machine dans laquelle on aura rentré tous les cas de figure possibles aura une rapidité fulgurante, là où des praticiens humains auront besoin de journées entières pour passer en revue les documents. Mais c'est quelque chose de purement automatisé. Et la machine n'a pas les capacités d'erreurs, d'approximation, d'association, d'imprévisibilité de la pensée humaine pour le moment. Hein. Donc c'est des... je vous conseille de lire, il y a eu des suppléments édités par Libération sur l'intelligence artificielle. C'est de la diffusion scientifique, mais de très bon niveau, parce que c'est fait par des gens de l'INRIA et d'autres. Et c'est un excellent état des lieux, c'est-à-dire on comprend tout le chemin qui reste à faire, on comprend les utopies, les enjeux, on comprend les dangers aussi, mais pour le moment, c'est vraiment le cerveau humain qui domine, quoi.
Pardon, je reviens. Pour autre chose, vous avez beaucoup parlé de pensées proliférantes, et notamment l'acte de création, ou même d'ailleurs d'écriture d'un ouvrage. Je me pose toujours la question de à quel moment un créateur, un auteur dit « oui, maintenant il faut que je m'arrête de penser ». Il faut que j'arrête l'acte de création et je considère que ce que j'ai écrit, ce que j'ai créé, la sculpture, la peinture, maintenant est terminé, puisqu'on sait qu'il y a des artistes qui ont comme ça travaillé sur des tableaux pendant des décennies, dont certains, ils ont d'ailleurs estimé qu'ils n'étaient finalement pas achevés. Donc à quel moment, d'ailleurs vous-même, vous avez peut-être eu cette expérience-là de réfléchir, de penser justement au moment où il fallait s'arrêter de penser, et il fallait dire, mettre un point final à votre œuvre.
Vous voulez répondre ? C'est à moi ? Il me paraît difficile de donner une seule réponse à cette question, parce qu'on peut dire qu'il peut y avoir des impératifs économiques, socio-économiques, avec le marché de l'art, par exemple, qui font qu'un artiste est pris dans une logique de production, de mercantilisation. Et qui ne peut pas passer toute sa vie sur une même œuvre. D'un autre côté, c'est une question que j'aborde parfois avec des étudiantes et des étudiants en thèse. C'est-à-dire, je leur dis, un doctorat, c'est très bien quand c'est fini. Et ils me disent, oui, mais c'est pas prêt, j'ai encore des choses à voir, etc. Et je leur dis, oui, mais... L'acte de décider qu'on finit, c'est très important. C'est une manière de boucler, de clore et de dire il y a un intérieur et un extérieur, il y a une limite et rien m'empêchera de revenir après. Le terme d'œuvre présuppose ce moment où les choses sont bouclées. Je pense aussi dans l'Antiquité gréco-latine, vous écrivez un texte et il n'y a pas, comme aujourd'hui, des éditeurs, des imprimeurs, qui prennent en charge ce texte. Donc c'est vous qui prenez la décision de le diffuser. Et donc vous décidez, vous dites, je considère que mon texte est terminé et je le mets en circulation. Et le verbe qui désigne cette opération... édité, entre guillemets, ou publié, c'est le même verbe qu'on emploie à propos d'un père qui donne sa fille en mariage. C'est très drôle, hein, du point de vue des représentations, mais l'auteur qui met son livre en circulation est un petit peu comme un père qui accepte de se séparer de sa fille pour la donner à un mari. Et donc, il faut décider que c'est fini. Et on a on a plusieurs cas intéressants, mais je pense à à Cicéron qui, à un moment donné, se rend compte qu'il a laissé partir un texte avec une petite erreur dedans. Et donc, il va voir son libraire, chef d'un scriptorium qui s'occupait de la production des copies, et lui dit « S'il te plaît, si c'est pas trop tard, je voudrais absolument modifier mon texte ». Et le libraire lui dit « Je suis désolé, les copies, il y a déjà des copies qui sont parties, donc c'est trop tard, le texte... c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et pour terminer ma réponse, je poserai peut-être aussi une question. Je me demande si, dans le fond, l'acte de création n'est pas aussi une forme de répétition. C'est-à-dire, est-ce qu'un sculpteur ou un peintre ou un dramaturge ou un musicien ou un intellectuel ne revient pas plusieurs fois dans sa vie sur la même chose, sur le même chantier, en essayant de pousser plus loin une idée, d'adapter un savoir-faire à un nouveau défi. Enfin, je pense à de grands intellectuels que j'ai connus, comme Jean-Pierre Vernant, hein, qui était un helléniste prof au Collège de France, et qui, me semble-t-il, est revenu à différents moments de sa vie, à des textes voilà, qu'il a reformulés, à des idées qu'il a reformulées, retravaillées. Je pense aussi à Michel Foucault, qui... on a l'œuvre publiée, où il a estimé que les choses étaient... Voilà, c'est ce qu'il a donné à son éditeur Gallimard, avec ses grands livres, L'histoire de la folie, La naissance de la clinique, etc. On a un ensemble qui est tout à fait important et passionnant, c'est les dits et les écrits, et où on voit des années après les mots et les choses, l'archéologie du savoir... Foucault revient dans des interviews, dans des conférences, en expliquant ce qu'il a voulu faire, en reformulant, en employant des termes différents. C'est un peu le sculpteur qui reprend sa statue pour la modifier. Et on a les cours du Collège de France qui sont toujours en cours d'édition et qui sont une parole vive qui procédait aussi beaucoup par retour sur ce qui avait été écrit. Donc on pourrait dire que l'œuvre de Foucault, que rien n'a vraiment jamais été achevé, que tout a été retravaillé, reformulé, approfondi, ce qui n'empêche pas de progresser, mais c'est... Enfin, je pense qu'il y a vraiment, entre l'intellectuel et l'artiste, il y a cette même dimension d'une capitalisation d'expérience et... je ne sais pas, d'un retour constant à un même style. On reconnaît un Rembrandt, on reconnaît un Van Gogh, on reconnaît du Foucault. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais...
Peut-être que pour faire le lien entre en fait, les deux dernières questions, on peut revenir un tout petit instant sur l'aventure des lieux de savoir, c'est-à-dire un premier tome. Et puis un second, et puis une matière non seulement inépuisable, mais peut-être d'autant inépuisable que le changement de la transformation du support, ce que vous en faites aujourd'hui, ou la façon que vous avez de travailler cette matière aujourd'hui, en augmente de façon sans doute exponentielle le pouvoir d'investigation.
Oui. Donc on travaille actuellement avec des collègues du monde des bibliothèques, du monde de l'informatique, du monde des humanités numériques, sur un artefact complètement utopique, mais qui prend corps et réalité, c'est-à-dire effectivement une bibliothèque intelligente consacrée à l'anthropologie, à l'histoire des savoirs, avec une forte dimension réflexive, et... dont le but est de proposer aux lecteurs des expériences de pensée, si on peut dire, résultant de recommandations et d'expérimentations sur lesquelles le lecteur lui-même a prise. Donc je vais prendre un exemple tout à fait trivial. Vous connaissez ces sites de commerce électronique où vous achetez un disque et on vous dit si vous avez aimé... je ne sais pas, Johnny Hallyday, vous aimerez, etc. Et vous avez des suggestions d'achat qui réapparaissent. De même sur Google, où vous avez des suggestions. Nous, on voudrait faire quelque chose plus complexe, c'est-à-dire la possibilité d'associer des questionnements qui peuvent être géographiques, historiques, conceptuels... pour parvenir à des textes particuliers et visualiser les résultats sous forme de graphes, de cartes, de volumes tridimensionnels, avec des possibilités... enfin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous rentrez donc dans cet espace en vous intéressant aux hiéroglyphes, sur les tombes, sur les parois des tombes du Haut Empire en Égypte, et donc avec, voilà, calligraphie, hiéroglyphes, tombes, scribes, stylets, murs, parois, morts, etc. Et ce que nous sommes en train de construire diffracterait cette question en vous conduisant vers l'épigraphie funéraire grecque, vers l'épigraphie des cimetières contemporains, vers les techniques des tailleurs de pierre, vers les fontes des imprimeurs au XIXe siècle, etc., etc. C'est-à-dire des modes de visualisation et de, d'association de thèmes permettant réellement de penser, c'est-à-dire de circuler, d'associer des questionnements. Donc on en est au début, enfin, on est dans une phase de développement et on devrait faire pour la semaine prochaine les premières simulations de fenêtres. Voilà, c'est tout à fait stimulant. Donc, et le lecteur aurait évidemment la possibilité de déterminer la part de distance, d'autonomie des algorithmes pour proposer des choses inattendues. Donc, c'est pour ça que je pensais à la bibliothèque de Warburg. On voudrait que les lecteurs qui rentrent là en ressortent avec des textes, des idées, des questions, des concepts auxquels ils n'ont pas pensé. Donc c'est à la fois une mine, un atelier, une bibliothèque, une salle de séminaire virtuelle, ce qui est déjà pas mal. Voilà.
Merci infiniment pour cet entretien. Merci d'avoir pris toute la mesure et la difficulté de cette question de matière à penser, de vous y être colleté voilà, entièrement au travers de ce parcours aussi dans vos... Dans vos objets de pensée, dans les matières que vous avez réfléchi, travaillé jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Alors, nous tenions à remercier nos invités pour cet entretien vraiment passionnant. Également, vous remercier d'être venus. Vous dire que cette séance a été enregistrée, sera bientôt disponible sur notre Web TV Radio. Nous vous donnons rendez-vous le 13 mai pour poursuivre cette aventure de la pensée. Mais d'ici là, vous pouvez tout à fait suivre notre actualité via notre programme et notre newsletter et notre actualité sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons une très bonne fin de soirée.